Chapitre 14, où l'on voit en présence le principe monarchique représenté par l'abbé Fortier et le principe révolutionnaire représenté par Pitou, Pitou diplomate. Cette nuit-là, Pitou fut si préoccupé du grand honneur qui lui était échu qu'il oublia de visiter ses collègues. Le lendemain, il s'arma de son casque et de son sabre et se mit en route pour Villers-Cotterêts. 6 heures du matin sonnaient à l'horloge de la ville quand Pitou arriva sur la place du château et frappa discrètement à la petite porte qui donnait dans le jardin de l'abbé Fortier. Et Pitou avait frappé assez fort pour tranquilliser sa conscience, assez doucement pour qu'on n'entendît point de la maison. Il espérait ainsi se donner un quart d'heure de répit et, pendant ce temps, orner de quelques fleurs oratoires le discours qu'il avait préparé pour l'abbé Fortier. Son étonnement fut grand, si doucement qu'il eut frappé, de voir la porte s'ouvrir, mais cet étonnement cessa dans celui qui lui ouvrait la porte. Il reconnut Sébastien Gilbert. L'enfant se promenait dans le petit jardin, étudiant sa leçon au premier soleil, ou plutôt faisant semblant d'étudier, car le livre ouvert pendait à sa main, et la pensée de l'enfant courait capricieuse au devant et à la suite de tout ce qu'il aimait en ce monde. Sébastien poussa un cri de joie en apercevant Pitou. Ils s'embrassèrent, puis le premier mot de l'enfant fut celui-ci. « As-tu des nouvelles de Paris ?»« Non, et toi ?» demanda Pitou. « Oh, moi j'en ai, mon père m'a écrit une charmante lettre. »« Ah !» fit Pitou. « Et dans laquelle, continua l'enfant, il y a un mot pour toi. » Et, tirant la lettre de sa poitrine, il la présenta à Pitou. Post-scriptum, Billot recommande à Pitou de ne pas ennuyer ou distraire les gens de la ferme. « Oh !» soupira Pitou, « voilà par ma foi une recommandation bien inutile. Je n'ai plus personne à tourmenter ou à divertir à la ferme. » Puis il ajouta tout bas, en soupirant plus fort, « C'est à Monsieur Isidore que l'on eût dû adresser ces paroles. » Mais bientôt, se remettant et rendant la lettre à Sébastien, « Où est l'abbé » demanda-t-il. L'enfant prêta l'oreille, et quoique toute la largeur de la cour et une partie du jardin le séparassent de l'escalier qui craquait sous les pieds du digne prêtre, « Tiens, dit-il, le voilà qui descend. » Et Pitou passa du jardin dans la cour, mais ce ne fut qu'alors qu'il entendit le pas alourdi de l'abbé. Le digne instituteur descendait son escalier tout en lisant son journal. Son fidèle Martinet pendait à son côté comme une épée à la ceinture d'un capitaine. Le nez sur le papier, car il savait par cœur le nombre de ses marches, l'abbé arriva juste sur Ange Pitou, qui venait de se donner la contenance la plus majestueuse possible en face de son adversaire politique. Et d'abord sur la situation, quelques mots qui eussent fait longueur à une autre page et qui trouvent naturellement leur place sur celle-ci. Ils expliqueront la présence chez l'abbé Fortier de ces 30 ou 40 fusils qui étaient l'objet des ambitions de Pitou et de ses deux complices, Claude et Désiré. L'abbé Fortier, ancien aumônier et sous-aumônier du château, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ailleurs, était devenu avec le temps, et surtout avec cette patience fixité des ecclésiastiques, l'unique intendant de ce qu'en économie théâtrale on appelle les accessoires de la maison. Outre ses vases sacrés, outre la bibliothèque, outre le garde-meuble, il avait reçu en dépôt les vieux équipages de chasse du duc d'Orléans, Louis-Philippe, père de Philippe, qui fut nommé depuis Égalité. Quelques-uns de ces équipages remontaient à Louis XIII et à Henri III. Tous ces ustensiles avaient été disposés artistiquement par lui dans une galerie du château qu'on lui avait abandonnée à cet effet. Et pour leur donner un aspect plus pittoresque, il les avait étoilés de rondaches, d'épieux, de poignards, de dagues et de mousquets à incrustation du temps de la Ligue. La porte de cette galerie était formidablement défendue par 2 petits canons de bronze argenté donnés par Louis XIV à son oncle Monsieur. En outre, une 50aine de mousquetons rapportés comme trophées par Joseph-Philippe du combat d'Ouessant avait été donnée par lui à la municipalité, et la municipalité qui, comme nous l'avons dit, logeait gratis l'abbé Fortier, avait mis ses mousquets, dont elle ne savait que faire, dans une chambre de la maison collégiale. C'était là le trésor que gardait le dragon nommé Fortier, menacé par le Jason, que l'on appelait Ange Pitou. Le petit arsenal du château était assez célèbre dans le pays pour que l'on désirât l'acquérir sans frais. Mais nous l'avons dit, dragon vigilant, l'abbé ne semblait pas disposé à livrer facilement à quelque Jason que ce fût les pommes d'or de ses Hespérides. Ceci posé, revenons à Pitou. Il salua fort gracieusement l'abbé Fortier en accompagnant son salut d'une de ces petites toux qui réclament l'attention des gens distraits ou préoccupés. L'abbé Fortier leva le nez de dessus son journal. « Tiens, c'est Pitou, dit-il. « Pour vous servir, si j'en étais capable, monsieur l'abbé, fit Ange avec courtoisie. » L'abbé plia son journal, ou plutôt le ferma, comme il eût fait d'un portefeuille, car à cette heureuse époque, les journaux n'étaient encore que de petits livres. Puis, son journal fermé, il le passa dans sa ceinture, du côté opposé à son martinet. « Ah oui, mais voilà le malheur, répondit l'abbé en goguenardant, c'est que tu n'en es pas capable. « Oh, monsieur l'abbé, entends-tu, monsieur l'hypocrite ? Oh, monsieur l'abbé ! « Entendez-vous, monsieur le révolutionnaire ? Allons bon, voilà qu'avant que j'aie parlé, vous vous mettez en colère contre moi. C'est bien mal commencé, monsieur l'abbé. » Sébastien, qui savait ce que depuis 2 jours l'abbé Fortier avait dit de Pitou à tout venant, aima mieux ne pas assister à la querelle qui ne pouvait manquer d'éclater incessamment entre son ami et son maître, et s'éclipsa. Pitou regarda s'éloigner Sébastien avec une certaine douleur. Ce n'était pas un allié bien vigoureux, mais c'était un enfant de la même communion politique que lui. Aussi, à sa disparition, hors du cadre de la porte, poussa-t-il un soupir, et revenant à l'abbé, « À ça, voyons, monsieur l'abbé, dit-il, pourquoi m'appelez-vous révolutionnaire ? Est-ce que c'est moi, par hasard, qui suis cause qu'on a fait la révolution ? Tu as vécu avec ceux qui la font. Monsieur l'abbé, dit Pitou avec une dignité suprême, chacun est libre de sa pensée. Guida. Est penes hominem arbitrium et ratio. Ah bah, fit latin, tu sais donc le latin, cuistre? Je sais ce que vous m'en avez appris, répondit modestement Pitou. Oui, revu, corrigé, augmenté et embelli de barbarisme. Bon, monsieur l'abbé, des barbarismes, mon Dieu, qui n'en fait pas? Drôle, dit l'abbé, visiblement blessé de cette tendance que l'esprit de Pitou paraissait avoir à généraliser. Crois-tu que j'en fasse des barbarismes, moi? Vous en feriez aux yeux d'un homme qui serait plus fort latiniste que vous. Voyez-vous cela? Fit l'abbé, pâle de colère, et cependant frappé de ce raisonnement qui ne manquait pas d'une certaine force. Et puis, avec mélancolie, voilà en 2 mots, continua l'abbé, le système de ces scélérats. Ils détruisent et dégradent. Au profit de qui? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Au profit de l'inconnu. Voyons, monsieur le cancre, parlez à cœur ouvert. Connaissez-vous quelqu'un qui soit plus fort latiniste que moi? Non, mais il peut y en avoir, bien que je ne le connaisse pas, je ne connais pas tout. Je le crois, fichtre bien. Puis tout se signa. Que fais-tu, libertin? Vous jurez, monsieur l'abbé, je me signe. Ah ça, voyons, monsieur le drôle, êtes-vous donc venu chez moi pour me tympaniser? Vous tympaniser, répéta Pitou. Ah bon, voilà que tu ne comprends pas. Si fait, monsieur l'abbé, je comprends. Ah, grâce à vous, on connaît les racines. Tympaniser, tympanum, tambour, vient du grec tympanum, tambour, bâton ou cloche. L'abbé resta stupéfait. Racine, typos, marque, vestige, et, comme dit Lancelot dans son jardin des racines grecques, typos, la forme qui s'imprime, lequel mot vient évidemment de tupto, je frappe, voilà. Oh, maroufle, reprit l'abbé, de plus en plus abasourdi, il paraît que tu sais encore quelque chose, même ce que tu ne savais pas. Oh, fit Pitou avec une fausse modestie. Comment se fait-il que du temps où tu étais chez moi, tu n'eusses jamais ainsi répondu? Parce que du temps où j'étais chez vous, monsieur l'abbé, vous m'abrutissiez. Parce que, par votre despotisme, vous refouliez dans mon intelligence et dans ma mémoire tout ce que la liberté en a fait sortir depuis. Oui, la liberté, entendez-vous? Insista Pitou en se montant la tête. La liberté! Ah, coquin! Monsieur l'abbé, fit Pitou avec un air d'avertissement qui n'était pas du tout exempt de menace, monsieur l'abbé, ne m'injuriez pas. Contumelia non argumentum, dit un orateur. L'injure n'est pas une raison. Je crois que le drôle, s'écria l'abbé furieux, se croit obligé de me traduire son latin. Ce n'est pas du latin à moi, monsieur l'abbé, c'est du latin de Cicéron, c'est-à-dire d'un homme qui eût bien certainement prouvé que vous faisiez autant de barbarisme eu égard à lui que j'en puis faire eu égard à vous. Tu ne prétends pas, j'espère, fit l'abbé Fortier, ébranlé sur sa base, tu ne prétends pas, j'espère, que je discute avec toi. Pourquoi pas, si de la discussion naît la lumière? Abstrusum versus silicium. Oh, mais, s'écria l'abbé Fortier, oh, mais, le drôle a été à l'école des révolutionnaires. Non, puisque vous dites que les révolutionnaires sont des crétins et des ignares. Oui, je le dis. Alors vous faites un faux raisonnement, monsieur l'abbé, et votre syllogisme est mal posé. Mal posé? Moi, j'ai mal posé un syllogisme? Sans doute, monsieur l'abbé. Pitou raisonne et parle bien. Pitou a été à l'école des révolutionnaires, donc les révolutionnaires raisonnent et parlent bien. C'est forcé. Animal, brute, imbécile! Ne me molestez pas par des paroles, monsieur l'abbé. Opurgatio imbellem animum arguit. La faiblesse se trahit par la colère. L'abbé haussa les épaules. Répondez, dit Pitou. Tu dis que les révolutionnaires parlent bien et raisonnent bien, mais cite-moi donc un seul de ces malheureux, un seul qui sache lire et écrire. Moi, fit Pitou avec sécurité. Lire, je ne dis pas, et encore, mais écrire. Écrire, répéta Pitou. Oui, écrire, sans orthographe. Savoir. Veux-tu parier que tu n'écris pas une page sous ma dictée sans faire quatre fautes? Voulez-vous parier, vous, que vous n'en écrivez pas une demi-page sous la mienne sans en faire deux? Oh, par exemple. Eh bien, allons, je vais vous chercher des participes et des verbes réfléchis. Moi, je vous assaisonnerai certains que je connais et je tiens le pari. Si j'avais le temps, dit l'abbé, vous perdriez. Pitou, Pitou, rappelle-toi le proverbe, pituius angelus asinus est. Bien, des proverbes, il y en a sur tout le monde. Savez-vous celui que m'ont chanté en passant aux oreilles les roseaux de Hualu? Non, mais je serais curieux de le connaître, maître Midas. Fortier roussabas, forte fortis. Monsieur, s'écria l'abbé, traduction libre, l'abbé Fortier n'est pas fort tous les jours. Heureusement, dit l'abbé, ce n'est pas le tout d'accuser, il faut prouver. Hélas, monsieur l'abbé, comme ce serait facile. Voyons, qu'enseignez-vous à vos élèves? Mais suivez mon raisonnement, qu'enseignez-vous à vos élèves? Ce que je sais. Bon, notez que vous avez répondu « ce que je sais ». Eh oui, ce que je sais, fit l'abbé ébranlé, car il sentait que, pendant son absence, ce singulier lutteur avait appris des coups inconnus. Oui, je l'ai dit, et après... Eh bien, puisque vous montrez à vos élèves ce que vous savez, voyons, que savez-vous? Le latin, le français, le grec, l'histoire, la géographie, l'arithmétique, l'algèbre, l'astronomie, la botanique, la numismatique. Y en a-t-il encore? Demanda Pitou. Mais cherchez, cherchez. Le dessin, allez toujours. L'architecture, allez toujours. La mécanique, c'est une branche des mathématiques, mais n'importe, allez. Ah ça, mais où veux-tu en venir? À ceci, tout simplement, vous avez fait le compte très large de ce que vous savez faire, faites maintenant le compte de ce que vous ne savez pas. L'abbé frémit. Ah, dit Pitou, je vois bien que pour cela il faut que je vous aide. Vous ne savez ni l'allemand, ni l'hébreu, ni l'arabe, ni le sanskrit, quatre langues mères, je ne vous parle pas des subdivisions qui sont innombrables. Vous ne savez pas l'histoire naturelle, la chimie, la physique. Monsieur Pitou, ne m'interrompez pas. Vous ne savez pas la physique, la trigonométrie rectiligne. Vous ignorez la médecine, vous ignorez l'acoustique, la navigation, vous ignorez tout ce qui a rapport aux sciences gymnastiques, plaît-il? J'ai dit gymnastique, du grec gymnasia exerkai, qui vient de gymnos nu, parce que les athlètes s'exerçaient nus. Ben, c'est moi qui t'ai appris tout cela, pourtant, s'écria l'abbé, presque consolé de la victoire de son élève. C'est vrai, il est heureux que tu en conviennes. Avec reconnaissance, monsieur l'abbé, nous disions donc que vous ignoriez assez, il est certain que j'ignore plus que je ne sais. Donc, vous convenez que beaucoup d'hommes en savent plus que vous. C'est possible, c'est sûr. Et plus l'homme sait, plus il s'aperçoit qu'il ne sait rien. Le mot est de Cicéron. Conclus? Je conclus. Voyons la conclusion, elle va être droite. J'en conclus qu'en vertu de votre ignorance relative, vous devriez avoir plus d'indulgence pour la science relative des autres hommes. Cela constitue une double vertu, virtus duplex, qui, à ce qu'on assure, était celle de Fénelon, qui en savait bien autant que vous, cependant. C'est la charité chrétienne et l'humilité. L'abbé poussa un rugissement de colère. Serpent! S'écria-t-il, tu es un serpent! Tu m'injuries et ne me réponds pas, c'est ce que répondait un sage de la Grèce. Je vous le dirai bien en grec, mais je vous l'ai déjà dit, ou à peu près en latin. Bien, dit l'abbé, voilà encore un effet des doctrines révolutionnaires. Lequel? Elles t'ont persuadé que tu étais mon égal. M'eussent-elles persuadé de cela, vous n'en auriez pas davantage le droit de faire une faute de français. Plaît-il? Je dis que vous venez de faire une énorme faute de français, mon maître. Ah, voilà qui est jolie, par exemple, et laquelle? La voici. Vous avez dit, les doctrines révolutionnaires t'ont persuadé que tu étais mon égal. Eh bien, était est un imparfait. Parbleu, oui. C'est le présent qu'il faut. Ah, fit l'abbé en rougissant. Traduisez un peu la phrase en latin et vous verrez quel solécisme énorme vous donnera le verbe mis à l'imparfait. Pitou, Pitou, s'écria l'abbé, croyant entrevoir quelque chose de surnaturel dans une pareille érudition. Mais Pitou, quel est donc ce démon qui t'inspire toutes ces attaques contre un vieillard et contre l'Église? Mais, monsieur l'abbé, répliqua Pitou, un peu ému de l'accent de véritable désespoir avec lequel ces paroles avaient été prononcées, ce n'est pas le démon qui m'inspire, et je ne vous attaque pas, seulement vous me traitez toujours comme un sot, et vous oubliez que tous les hommes sont égaux. L'abbé s'irrita de nouveau. Ah, voilà, dit-il, ce que je ne souffrirai jamais, ce que l'on profère devant moi de pareils blasphèmes. Toi, toi, l'égal d'un homme que Dieu et le travail ont mis 60 ans à former. Jamais, jamais. Dame, demandez à monsieur de Lafayette qui a proclamé les droits de l'homme. Oui, cite comme autorité le mauvais sujet du roi, le flambeau de toutes les discordes, le traître. Hein, fit Pitou, effarouché, monsieur de Lafayette, un mauvais sujet du roi, monsieur de Lafayette, un Brandon de discorde, monsieur de Lafayette, un traître, mais c'est vous qui blasphémez, monsieur l'abbé. Mais vous avez donc vécu dans une boîte depuis 3 mois, vous ignorez donc que ce mauvais sujet du roi est le seul qui serve le roi. Que ce flambeau de discorde est le gage de la paix publique, que ce traître est le meilleur des Français. Oh, fit l'abbé, aurais-je jamais cru que l'autorité royale tomberait si bas et qu'un vaurien de cette espèce, et il désignait Pitou, invoquerait le nom de Lafayette comme autrefois on invoquait celui d'Aristide ou de Phocion. Vous êtes bien heureux que le peuple ne vous entende pas, monsieur l'abbé, dit imprudemment Pitou. Ah! s'écria l'abbé triomphant, voilà que tu te décèles enfin, tu menaces le peuple, oui, le peuple, celui qui a lâchement égorgé les officiers du roi, celui qui a fouillé dans les entrailles de ses victimes, oui, le peuple de monsieur Lafayette, le peuple de monsieur Bailly, le peuple de monsieur Pitou. Eh bien, pourquoi ne me dénonces-tu pas à l'instant aux révolutionnaires de Villers-Cotterêts? Pourquoi ne me traînes-tu pas sur le pleu? Pourquoi ne retrousses-tu pas tes manches pour m'accrocher au réverbère? Allons, Pitou, macté, animo, Pitou, sursoum, sursoum, Pitou, allons, allons, où est la corde? Où est la potence? Voilà le bourreau, macté, animo, généreuse et pitoué. Sicitur ad astra, continua Pitou entre ses dents, dont la simple intention d'achever le verre et ne s'apercevant pas qu'il venait de faire un calembour de cannibale. Mais force lui fut de s'en apercevoir à l'exaspération de l'abbé. « Ah !» vociféra ce dernier. « Ah, tu le prends ainsi. Ah, c'est ainsi que j'irai aux astres. Ah, tu me destines à la potence. Moi !» « Mais je ne dis pas cela !» s'écria Pitou, commençant à s'épouvanter de la tournure que prenait la discussion. « Ah, tu me promets le ciel de l'infortuné Foulon, du malheureux Berthier ! Mais non, monsieur l'abbé !» « Ah, tu tiens déjà le nœud coulant, bourreau carnifex, c'est toi, n'est-ce pas, qui, sur la place de l'hôtel de ville, montais sur le réverbère avec tes bras hideux d'araignée, à tirer les victimes ?» Puis tout poussa un rugissement de colère et d'indignation. « Oui, c'est toi, et je te reconnais !» continua l'abbé, dans un transport de divination qui le faisait ressembler à Joat. « Je te reconnais, Catilina, c'est toi !» « Ah, sa mère !» s'écria Pitou. « Savez-vous que vous me dites là des choses odieuses, monsieur l'abbé? Savez-vous, au bout du compte, que vous m'insultez ?»« Je t'insulte. Savez-vous que si cela continue, je me plaindrai à l'Assemblée nationale ?»« Ah, mais !» L'abbé se mit à rire d'une façon sinistrement ironique. « Dénoncé !» dit-il. « Et qu'il y a punition contre les mauvais citoyens qui insultent les bons ?»« Le réverbère ! Vous êtes un mauvais citoyen !» La corde, la corde! Puis, tout à coup, ah, mais! S'écria l'abbé, avec un mouvement d'illumination subite et de généreuse indignation. Ah, le casque, c'est lui! Eh bien, fit Pitou, qu'a-t-il, mon casque? L'homme qui arracha le cœur fumant de Berthier, l'anthropophage qui le porta tout sanglant sur la table des électeurs, avait un casque. « L'homme au casque, c'est toi, Pitou. L'homme au casque, c'est toi, monstre. Fuis, fuis, fuis !» Et à chaque « fuis » prononcé d'une façon tragique, l'abbé avait avancé d'un pas et Pitou reculé d'un pas. À cette accusation, dont le lecteur sait que Pitou était bien innocent, le pauvre garçon jeta loin de lui ce casque dont il était si fier et qui s'alla bosseler sur le pavé avec un son mat de carton doublant le cuivre. « Hum, vois-tu, malheureux » s'écria-t-il, « tu avoues !» Et il se posa comme lequin dans Rossmann au moment où, trouvant le billet, il accuse Zahir. « Voyons, voyons !» dit Pitou, jeté hors de lui-même par une pareille accusation. « Vous exagérez, monsieur l'abbé !»« J'exagère, c'est-à-dire que tu n'as pendu qu'un peu, c'est-à-dire que tu n'as éventré qu'un peu, faible enfant !»« Monsieur l'abbé, vous savez bien que ce n'est pas moi, vous savez bien que c'est Pitt !»« Quel Pitt ?»« Mais Pitt second, fils de Pitt premier, de Lord Chatham, celui qui a distribué de l'argent en disant « Dépensez et ne me rendez pas de compte !» « Si vous saviez l'anglais, je vous dirais cela en anglais, mais vous ne le savez pas. »« Tu le sais donc, toi ? Monsieur Gilbert me l'a appris. »« En 3 semaines, misérable imposteur !» Et puis tout vit qu'il faisait fausse route. « Écoutez, monsieur l'abbé, dit-il, je ne vous conteste plus rien, vous avez vos idées. »« Vraiment ?» C'est trop juste. Ah, tu reconnais cela, monsieur Pitou me permet d'avoir des idées. »« Ah, merci, monsieur Pitou !» « Bon, voilà encore que vous vous fâchez. Vous voyez bien que, si cela continue ainsi, je ne pourrai pas vous dire ce qui m'amène chez vous. Malheureux, quelque chose t'amenait donc, tu es député peut-être ?» Et l'abbé se mit à rire ironiquement. Monsieur l'abbé, dit Pitou, placé par l'abbé lui-même sur le terrain où il désirait se trouver depuis la discussion, monsieur l'abbé, vous savez comme j'ai toujours eu du respect pour votre caractère. Ah oui, parlons de cela, et de l'admiration pour votre science, ajouta Pitou. Serpent, dit l'abbé. Moi, fit Pitou, oh, par exemple. Voyons, qu'as-tu à me demander? Que je te reprenne ici? Oh non, non, je ne gâterai pas mes écoliers, non, il te resterait toujours le venin nuisible, tu infesterais mes jeunes plantes, in feci pabula tabo. Mais, monsieur l'abbé, non, ne me demande pas cela si tu veux absolument manger, car je présume que les farouches pendeurs de Paris mangent comme d'honnêtes gens, cela mange aux dieux. Enfin, si tu exiges que je te jette ta part de viande saignante, tu l'auras, mais à la porte, dans les sportules, comme à Rome, les patrons donnaient à leurs clients. Monsieur l'abbé, dit Pitou en se redressant, je ne vous demande pas ma nourriture, j'ai ma nourriture, Dieu merci, et ne veux être à charge de personne. Ah, fit l'abbé, surpris, je vis comme tous les êtres vivent, sans mendier, et de l'industrie que la nature a mise en moi, je vis de mes travaux, et il y a plus, je suis si loin d'être à charge de mes concitoyens que plusieurs d'entre eux m'ont élu chef. Hein? Fit l'abbé avec une telle surprise mêlée d'un tel effroi que l'on eût dit qu'il avait marché sur un aspic. « Oui, oui, ils m'ont élu chef, » répéta Pitou complaisamment. « Chef de quoi ?» demanda l'abbé. « Chef d'une troupe d'hommes libres, » dit Pitou. « Ah, oh, mon Dieu !» s'écria l'abbé, « le malheureux est devenu fou !»« Chef de la garde nationale d'Aramon, » acheva Pitou, affectant la modestie. L'abbé se pencha vers Pitou pour mieux voir sur ses traits la confirmation de ses paroles. « Il y a une garde nationale à Aramon !» s'écria-t-il. « Oui, monsieur l'abbé. Et tu en es le chef ?»« Oui, monsieur l'abbé. Toi, et Pitou !»« Moi, et Pitou !» L'abbé leva ses bras tordus vers le ciel comme le grand prêtre Finet. « Abomination de la désolation » murmura-t-il. « Vous n'ignorez pas, monsieur l'abbé, dit Pitou avec douceur, que la garde nationale est une institution destinée à protéger la vie, la liberté et les propriétés des citoyens. « Oh, oh !» continua le vieillard, abîmé dans son désespoir. « Et que, continua Pitou, on ne saurait donner trop de force à cette institution, surtout dans les campagnes, à cause des bandes. »« Des bandes dont tu es le chef !» s'écria l'abbé. « Des bandes de pillards, des bandes de brûleurs, des bandes d'assassins. »« Oh, ne confondez pas, cher monsieur l'abbé, vous verrez mes soldats, je l'espère, et jamais plus honnêtes citoyens. »« Tais-toi, tais-toi !» Figurez-vous au contraire, monsieur l'abbé, que nous sommes vos protecteurs naturels, et la preuve, c'est que je suis venu droit à vous. Pourquoi faire ? Demanda l'abbé. Ah, voilà, dit Pitou en se grattant l'oreille et en examinant l'endroit où était tombé son casque pour voir si, en allant ramasser cette partie essentielle de son habillement militaire, il ne s'éloignerait pas trop de sa ligne de retraite. Le casque était tombé à quelques pas seulement de la grande porte donnant sur la rue de Soissons. « Je t'ai demandé pourquoi faire ?» répéta l'abbé. « Eh bien, dit Pitou, faisant à reculons deux pas vers son casque, voici l'objet de ma mission, monsieur l'abbé. Permettez que je le développe à votre sagacité. « Exorde !» murmura l'abbé. Et Pitou fit encore deux pas vers son casque. Mais par une manœuvre pareille, et qui ne laissait pas que d'inquiéter Pitou, à mesure que Pitou faisait deux pas vers son casque, l'abbé, pour conserver les distances, faisait deux pas vers Pitou. Eh bien, dit Pitou, commençant à prendre courage par le voisinage de son arme défensive, à tout soldat, il faut nécessairement des fusils, et nous n'en avons pas. « Ah, vous n'avez pas de fusil !» s'écria l'abbé, trépignant de joie. « Ah, ils n'ont pas de fusil ! Des soldats qui n'ont pas de fusil ! Ah, voilà, par ma foi, de beaux soldats !»« Mais, monsieur l'abbé, dit Pitou en faisant deux pas à nouveau vers son casque, quand on n'a pas de fusil, on en cherche. »« Oui, dit l'abbé, vous en cherchez ?» Pitou était arrivé à portée de son casque. Il le ramenait à lui avec son pied, de sorte que, occupé à cette opération, il tarda de répondre à l'abbé. « Hé, vous en cherchez ?» répéta celui-ci. Pitou ramassa son casque. « Oui, monsieur l'abbé, dit-il. « Et où cela ?»« Et chez vous, dit Pitou, en enfonçant son casque sur sa tête. « Des fusils chez moi ?» Oui, vous n'en manquez pas, vous. Ah, mon musée! S'écria l'abbé. Tu viens pour piller mon musée? Des cuirasses de nos anciens preux sur le dos de pareils drôles? Monsieur Pitou, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous êtes fou. Des épées des Espagnols d'Almanza, des piques des Suisses de Marignan, pour armer monsieur Pitou et consort. Ha, ha, ha! L'abbé se mit à rire, d'un rire tellement plein de dédaigneuses menaces qu'un frisson courut par les veines de Pitou. Non, monsieur l'abbé, dit-il, non, pas les piques des Suisses de Marignan, non, pas les épées des Espagnols d'Almanza, non, ces armes nous seraient inutiles. Ah, c'est bien heureux que tu le reconnaisses. Non, monsieur l'abbé, pas ces armes. Lesquelles, alors? Ces bons fusils de marine, monsieur l'abbé, ces bons fusils de marine que j'ai si souvent nettoyés à titre de pensum, alors que j'avais l'honneur d'étudier sous vos lois. D'où me met Galatea tenebat, ajouta Pitou avec un gracieux sourire. Vraiment, dit l'abbé, en sentant ses rares cheveux se dresser sur sa tête au sourire de Pitou. Vraiment, mes fusils de marine. C'est-à-dire les seuls de vos armes qui n'aient aucune valeur historique et qui soient susceptibles d'un bon service. Ah, fit l'abbé, en portant la main au manche de son martinet, comme eût fait un capitaine en portant la main à la garde de son épée. Ah, voilà le traître qui se dévoile. Monsieur l'abbé, dit Pitou, passant du ton de la menace à celui de la prière, accordez-nous ces 30 fusils de marine. « Arrière !» fit l'abbé en faisant un pas vers Pitou. « Et vous aurez la gloire !» dit Pitou en faisant de son côté un pas en arrière. « La gloire d'avoir contribué à délivrer le pays de ses oppresseurs !»« Que je fournisse des armes contre moi et les miens !» s'écria l'abbé. « Que je donne des fusils avec lesquels on tirera sur moi !» Et il tira son martinet de sa ceinture. « Jamais ! Jamais !» et il agita son martinet au-dessus de sa tête. « Monsieur l'abbé, on mettra votre nom dans le journal de Monsieur Prudhomme. »« Mon nom dans le journal de Monsieur Prudhomme ?» s'écria l'abbé. « Avec mention honorable de civisme. Plutôt le carcan et les galères. »« Comment, vous refusez ?» insista Pitou, mais mollement. « Je refuse, je te chasse !» Et l'abbé montra du doigt la porte à Pitou. « Mais cela fera un mauvais effet, dit Pitou. On vous accusera d'incivisme, de trahison, monsieur l'abbé. Je vous en prie, dit Pitou, ne vous exposez point à cela. Fais de moi un martyr, Néron, c'est tout ce que je demande, s'écria l'abbé, l'œil flamboyant et ressemblant bien davantage à l'exécuteur qu'au patient. Ce fut l'effet qu'il produisit sur Pitou, car Pitou reprit sa retraite. « Monsieur l'abbé, dit-il en faisant un pas en arrière, je suis un député paisible, un ambassadeur de pacification. Je venais... Tu venais pour piller mes armes, comme tes complices ont pillé les Invalides !»« Ce qui leur a valu une foule d'éloges là-bas, dit Pitou. » « Ce qui te vaudra ici une volée de coups de martinet, » dit l'abbé. « Oh, monsieur Fortier, » dit Pitou, qui reconnaissait l'instrument pour une vieille connaissance, « vous ne violerez pas ainsi le droit des gens. Ah, c'est ce que tu vas voir, misérable. Attends, monsieur l'abbé, je suis protégé par mon caractère d'ambassadeur. Attends. » Monsieur l'abbé. Pitou était arrivé à la porte de la rue en faisant face à son redoutable adversaire, mais acculé là, il fallait accepter le combat ou fuir. Mais pour fuir, il fallait ouvrir la porte et pour ouvrir la porte, il fallait se retourner. Or, en se retournant, Pitou offrait au cou de l'abbé cette partie désarmée de son individu que Pitou ne trouvait même pas suffisamment protégée par une cuirasse. « Ah, tu veux mes fusils ?» dit l'abbé. « Ah, tu viens chercher mes fusils ? Ah, tu viens me dire vos fusils ou la mort ?» « Monsieur l'abbé, dit Pitou, au contraire, je ne vous dis pas un mot de cela. Eh bien, tu sais où ils sont, mes fusils. Égorge-moi pour t'en emparer. Passe sur mon cadavre et va les prendre. » « Incapable, monsieur l'abbé, incapable !» Et Pitou, la main sur le loquet, l'œil sur le bras levé de l'abbé, calculait non plus le nombre des fusils renfermés dans l'arsenal de l'abbé, mais le nombre de coups suspendus aux lanières de son martinet. « Ainsi donc, monsieur l'abbé, vous ne voulez pas me donner vos fusils ?»« Ah non, je ne vais pas te les donner !»« Vous ne voulez pas une fois ?»« Non !»« Deux fois ?»« Non !» trois fois ? Non, non, non ! Eh bien, fit Pitou, gardez-les. » Et faisant un mouvement rapide, il se retourna et s'élança sur la porte entr'ouverte. Mais ce mouvement ne fut pas si rapide que le martinet intelligent ne s'abaissa sifflant et ne sangla si vigoureusement le bas des reins de Pitou que, quel que fût le courage du vainqueur de la Bastille, il ne put s'empêcher de jeter un cri de douleur. À ce cri, plusieurs voisins sortirent et, à leur étonnement profond, ils aperçurent Pitou fuyant de toute la vitesse de ses jambes avec son casque et son sabre et l'abbé Fortier debout sur le seuil de la porte et brandissant son martinet comme l'ange exterminateur son épée de flamme. Nous venons de voir comment Pitou était tombé du haut de ses espérances. La chute était profonde. Satan, foudroyé, n'avait pas mesuré plus d'espace en roulant du ciel aux enfers. Encore aux enfers, Satan était tombé roi, tandis que Pitou, foudroyé par l'abbé Fortier, était tout simplement redevenu Pitou. Comment se représenter maintenant devant ces mandataires? Comment, après leur avoir témoigné tant de confiance imprudente, oser leur dire que leur chef était un vantard, un fanfaron, qui, avec un casque sur l'oreille et un sabre sur le côté, se laissait donner par un vieil abbé des coups de martinet sur le derrière? S'être vanté de réussir près de l'abbé Fortier et échouer, quelle faute! Pitou, sur le revers du premier fossé qu'il trouva, prit sa tête dans ses mains et réfléchit. Il avait espéré amadouer l'abbé Fortier en lui parlant en grec et latin. Il s'était flatté, dans sa naïve bonhomie, de corrompre le cerbère avec le miel d'un gâteau de belles expressions. Et voilà que son gâteau s'était trouvé amer. Voilà que Cerbère avait mordu la main sans avaler le gâteau. Voilà que tous ses plans étaient renversés. L'abbé Fortier avait donc un immense amour-propre, et Pitou avait compté sans cet amour-propre, car ce qui avait exaspéré l'abbé Fortier était bien plus la faute de français que Pitou avait trouvé dans sa phrase que les 30 fusils qu'il avait voulu prendre dans son arsenal. Les jeunes gens, lorsqu'ils sont bons, commettent toujours cette faute de croire à la perfection chez autrui. L'abbé Fortier était donc un enragé royaliste et surtout un orgueilleux philologue. Pitou se reprochait amèrement d'avoir éveillé en lui, à propos du roi Louis XVI et du verbe être, la double colère dont il avait été victime. Il le connaissait, il eût dû le ménager. Là était réellement sa faute et il la déplorait trop tard, comme toujours. Restait à trouver ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû mettre son éloquence à prouver du royalisme à l'abbé Fortier et surtout à laisser passer inaperçu ses fautes de grammaire. Il aurait dû lui persuader que la garde nationale d'Aramon était contre-révolutionnaire. Il aurait dû lui promettre que cette armée serait l'armée auxiliaire du roi. Surtout ne pas dire un mot de ce malheureux verbe « être » mis à un temps pour un autre. Et nul doute alors que l'abbé n'eût ouvert ses trésors et ses arsenaux pour assurer à la monarchie le secours d'une troupe si vaillante et de son chef héroïque. Cette fausseté, c'est de la diplomatie. Pitou après s'être bien consulté, repassa dans sa tête toutes ces histoires d'autrefois. Il songea à Philippe de Macédoine, qui fit tant de faux serments et qu'on appelle un grand homme, à Brutus, qui contrefit la brute pour endormir ses ennemis et qu'on appelle un grand homme, à Thémistocle, qui passa sa vie à tromper ses concitoyens pour les servir et qu'on appelle aussi un grand homme. Par contre, il se rappela Aristide, lequel n'admettait pas les moyens injustes et qu'on appelle aussi un grand homme. Cet argument l'embarrassa, mais il trouva, en réfléchissant, qu'Aristide était bien heureux de vivre dans un temps où les Perses étaient si stupides qu'on put les vaincre avec de la bonne foi seulement. Puis, en réfléchissant encore, il songea qu'au bout du compte, Aristide avait été exilé, et cet exil, tout injuste qu'il fut, fit pencher la balance en faveur de Philippe de Macédoine, de Brutus et de Thémistocle. Passant aux exemples modernes, Pitou se demanda comment M. Gilbert, comment M. Bailly, comment M. Lamette, comment M. Barnave, comment M. de Mirabeau eussent fait s'ils eussent été Pitou et que Louis XVI eût été l'abbé Fortier. Comment eût-on fait pour faire armer par le roi de 300 000 à 500 000 gardes nationaux en France? Précisément le contraire de ce que Pitou avait fait. On eût persuadé à Louis XVI que les Français ne désiraient rien tant que de sauver et de conserver le père des Français, que pour le sauver efficacement, il fallait à ces Français de 300 000 à 500 000 fusils. Et assurément, M. de Mirabeau eût réussi. Pitou songeait aussi à la chanson proverbe qui dit « Lorsque l'on veut quelque chose du diable, il faut l'appeler Monseigneur ». Il concluait de tout cela qu'il n'était, lui, ange Pitou, qu'une quadruple brute, et que, pour retourner près de ses électeurs avec une sorte de gloire, il eût fallu faire précisément le contraire de ce qu'il avait fait. Fouillant de nouveau alors dans ce filon, Pitou résolut d'obtenir, par la ruse ou par la force, des armes qu'il s'était promis d'avoir par la persuasion. Un moyen se présenta d'abord, c'était la ruse. On pouvait s'introduire dans le musée de l'abbé et dérober ou enlever les armes de l'arsenal. À l'aide de ses compagnons, Pitou opérerait le déménagement. Seul, il opérerait le vol. Le vol, voilà un mot qui sonnait mal aux oreilles honnêtes de Pitou. Quant au déménagement, nul doute qu'il n'y eut en France encore assez de gens habitués aux anciennes lois pour l'appeler un brigandage ou un vol à main armée. Toutes ces considérations firent reculer Pitou devant les deux moyens que nous venons de citer. D'ailleurs, l'amour-propre de Pitou était engagé, et pour que cet amour-propre se tirât honorablement d'affaire, Pitou ne devait recourir à personne. Il se remit à chercher, non sans une certaine admiration pour la nouvelle direction que prenaient les spéculations de son esprit. Enfin, comme Archimède, il s'écria « Eureka !», ce qui veut simplement dire en français « je l'ai trouvé ». En effet, voici le moyen que Pitou venait de trouver dans son arsenal à lui-même. Monsieur de Lafayette était le commandant général des gardes nationales en France. Aramon était en France. Aramon avait une garde nationale, donc Monsieur de Lafayette était commandant général des gardes nationales d'Aramon. Monsieur de Lafayette ne devait donc pas tolérer que les miliciens d'Aramon manquassent d'armes, puisque les miliciens des autres pays étaient armés, ou allaient l'être. Pour arriver à Monsieur de Lafayette, Gilbert. Pour arriver à Gilbert, Billot. Pitou écrivit une lettre à Billot. Comme Billot ne savait pas lire, c'est Monsieur Gilbert qui lirait, et naturellement, le second intermédiaire se trouverait atteint. Ceci arrêté, Pitou attendit la nuit, rentra mystérieusement à Aramon et prit la plume. Cependant, quelques précautions qu'il eut prises pour rentrer incognito, il avait été vu par Claude Tellier et par Désiré Maniquet. Ils se retirèrent en silence et, mystérieusement, un doigt sur la bouche, les yeux sur la lettre. Pitou nageait en plein courant de politique pratique. Maintenant, voici la lettre qui était enfermée dans ce carré de papier blanc qui avait produit un si grand effet sur Claude et sur Désiré. Cher et honoré monsieur Billot, la cause de la révolution gagne tous les jours dans notre pays. Les aristocrates perdent du terrain, les patriotes avancent. La commune d'Aramont s'enrôle dans le service actif de la garde nationale, mais elle n'a pas d'armes. Il y a un moyen de s'en procurer. Certains particuliers retiennent des quantités d'armes de guerre qui pourraient économiser au trésor public de grandes dépenses si elles passaient au service de la nation. Plaise à monsieur le général de Lafayette faire ordonner que ces dépôts illégaux d'armes de guerre soient mis à la disposition des communes, proportionnellement au nombre d'hommes à armer, et je me charge pour ma part de faire rentrer 30 fusils au moins dans les arsenaux d'Aramont. C'est le seul moyen d'opposer une digue aux menées contre-révolutionnaires des aristocrates et des ennemis de la nation. Votre concitoyen et bien humble serviteur, Ange Pitou. » Quand il eut écrit ce factum, Pitou s'aperçut qu'il avait oublié de parler au fermier de sa maison et de sa famille. Il le traitait trop en Brutus. D'un autre côté, donner des détails à Billot sur Catherine, c'était s'exposer à mentir ou à déchirer le cœur d'un père. C'était aussi rouvrir les plaies saignantes dans l'arme de Pitou. Pitou étouffa un soupir et mit en post-scriptum « P.S. Madame Billot, Mademoiselle Catherine et toute la maison se portent bien et se rappellent au bon souvenir de Monsieur Billot. » De cette façon, Pitou ne compromettait ni lui ni personne. Montrant aux initiés l'enveloppe blanche qui allait partir pour Paris, le commandant des forces d'Aramont se contenta de leur dire « Voici ». Et il alla jeter sa lettre dans la boîte. La réponse ne se fit pas attendre. Le surlendemain, un exprès arriva dans Aramont à cheval en demandant Monsieur Ange Pitou. Grande était la rumeur, grande l'attente et l'anxiété des miliciens. Le courrier montait un cheval blanc d'écume. Il portait l'uniforme de l'état-major de la garde nationale parisienne. Qu'on juge de l'effet qu'il produisit, qu'on juge aussi du trouble et du battement de cœur de Pitou. Il s'approcha, tremblant, pâle, et prit le paquet que lui tendait, non sans sourire, l'officier chargé du message. C'était une réponse de Monsieur Billot par la main de Gilbert. Billot recommandait à Pitou la modération dans le patriotisme, et il envoyait l'ordre du général Lafayette, contresigné par le ministre de la guerre, pour armer la garde nationale d'Aramont. Il profitait du départ d'un officier chargé d'armer, au nom du général Lafayette, la garde nationale de Soissons et de Laon. Cet ordre était ainsi conçu. Seront tenus ceux qui possèdent plus d'un fusil et d'un sabre de mettre leurs armes à la disposition des chefs de corps de chaque commune. La présente mesure est exécutoire dans toute l'étendue de la province. Pitou, rouge de joie, remercia l'officier qui sourit de nouveau et repartit immédiatement pour le relais suivant. Ainsi, Pitou se voyait au comble des honneurs. Il recevait directement des messages du général Lafayette et des ministres. Et ces messages venaient servir complaisamment les plans et les ambitions de Pitou. Dépeindre l'effet de cette visite sur les électeurs de Pitou serait un travail impossible. Nous déclarons y renoncer. Seulement, à voir ces visages émus, ces yeux brillants, cet empressement de la population, à voir ce profond respect que tout le monde prit immédiatement pour Ange Pitou, le plus incrédule observateur se put convaincre que désormais notre héros allait être un grand personnage. Les électeurs, l'un après l'autre, demandèrent à voir et à toucher le cachet du ministère, ce que leur octroya Pitou très gracieusement. Et quand le nombre des assistants se fut réduit aux seuls initiés, « Citoyen, dit Pitou, mes plans ont réussi comme je l'avais prévu. J'ai écrit au général Lafayette le désir que vous avez de vous constituer en garde nationale et le choix que vous avez fait pour moi pour vous commander. Lisez la suscription de la lettre qui m'arrive du ministère. » Et il présenta la dépêche sur l'adresse de laquelle on put lire « Au cieux Ange Pitou, commandant de la garde nationale d'Aramont. » Je suis donc, continua Pitou, reconnu et agréé par le général Lafayette comme commandant de la garde nationale. Vous êtes donc reconnu et agréé comme garde nationaux par le général Lafayette et le ministre de la guerre. Un long cri de joie et d'admiration ébranla les murs du galetas qu'habitait Pitou. Quant aux armes, continua notre homme, le moyen de les avoir, je l'ai. Vous allez promptement vous nommer un lieutenant et un sergent, ces deux autorités m'accompagneront dans la démarche que j'ai à faire. Les assistants se regardèrent incertains. Ton avis, Pitou, dit Maniquet. Cela ne me regarde pas, fit Pitou avec une certaine dignité. Il faut que les élections ne soient pas influencées. Réunissez-vous hors de ma présence, nommez-vous les deux chefs que j'ai désignés, mais nommez-les solides. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Allez. Sur ce mot prononcé royalement, Pitou congédia les soldats et demeura seul enveloppé dans sa grandeur, ainsi qu'Agamemnon. Il s'absorba dans sa gloire, tandis que les électeurs se disputaient au dehors une bribe de la puissance militaire qui devait régir Aramon. L'élection dura une heure. Le lieutenant et le sergent furent nommés. Ce furent le sergent Claude Tellier et le lieutenant Désiré Maniquet. Alors on revint trouver Ange Pitou, qui les reconnut et les proclama. Et puis, ce travail terminé, « Maintenant, messieurs, dit-il, pas un moment à perdre. »« Oui, oui, apprenons l'exercice, » fit un des plus enthousiastes. « Une minute, » répliqua Pitou. « Avant l'exercice, ayons d'abord les fusils. »« Oh, c'est trop juste, » firent les chefs. « Et en attendant les fusils, ne peut-on étudier avec des bâtons ?»« Faisons les choses militairement, » répondit Pitou, qui, voyant l'ardeur générale, ne se sentait pas assez fort pour donner les leçons d'un art auquel il ne comprenait encore rien. Des soldats qui apprennent l'exercice à feu avec des bâtons, c'est grotesque, ne commençons pas par être ridicules. « Ah, c'est juste, » fut-il répondu, « les fusils !»« Venez donc avec moi, lieutenant et sergent, » dit-il à ses inférieurs, « vous autres, attendez notre retour. » Un acquiescement respectueux fut la réponse de la troupe. « Il nous reste 6 heures de jour, c'est plus qu'il n'en faut pour aller à Villers-Cotterêts, faire notre affaire et revenir. »« En avant, marche !» s'écria Pitou. L'état-major de l'armée d'Aramon se mit en route aussitôt. Mais quand Pitou relut la lettre de Billot pour se bien persuader que tant d'heures n'étaient pas un rêve, il y trouva cette phrase de Gilbert qui lui avait échappé. « Pourquoi Pitou a-t-il oublié de donner à monsieur le docteur Gilbert des nouvelles de Sébastien ? Pourquoi Sébastien n'écrit-il pas à son père ? »